Léa Salamé, 7h49, votre invitée ce matin est co-responsable du pôle enquête à Mediapart.
Bonjour Fabrice Arfi.
Bonjour.
Vous sortez D'argent et de sang, le roman vrai de la mafia du CO2 au seuil. C'est l'histoire de deux gamins de Belleville qui rencontrent un bourgeois du 16e. À eux trois, ils vont faire la plus grande arnaque de l'histoire de France, la fameuse fraude à la taxe carbone. C'est une histoire de jeu, d'argent, de mort. On n'est pas dans un film de Scorsese à New York, mais à Paris, dans la vraie vie. Pourquoi vous être passionné pour cette histoire-là ?
En fait, cette histoire dont le récit a débuté dans des enquêtes pour Mediapart est devenue une obsession pour moi et je suis ravi que vous parliez de Scorsese puisque mon amour des films de Scorsese mais aussi de Sidney Lumet ont été une des raisons de raconter cette affaire, cette histoire, ce récit pour dire que les affranchis, en fait, ils existent aussi en France. Et c'est en effet l'histoire de ces deux gamins de Belleville qui vont comprendre assez tôt, en arrêtant l'école avant d'avoir mué, en faisant les marchés, que leur prospérité se situera probablement en dehors du code pénal, ils vont décider d'être escrocs. Et de l'autre côté de l'échelle sociale et de la ville, à Paris, dans le 16e arrondissement, il y a un blouson doré qui, lui, veut être une sorte d'avatar de Gordon Gekko, la star du film de Wall Street d'Oliver Stone. Et lui, il sera trader. Et ils vont se rencontrer autour des tables de poker, vont former un trio infernal et qui, en s'infiltrant dans les failles de l'État, vont, comme vous l'avez dit, être à l'origine de la plus grande escroquerie de l'histoire de France.
Vous allez nous expliquer ce que c'est un peu technique, mais vous allez le simplifier. Leur moteur n'est pas le même selon d'où ils viennent, dites-vous. Les deux gamins de Belleville cherchent l'argent et la respectabilité sociale qu'elle entraîne. Arnaud Mimran, le bourgeois du 16, entre parenthèses, le 16e en prend un coup. Vous êtes ultra caricatural sur le pauvre 16e arrondissement.
Je le reconnais.
Vous le reconnaissez, c'est pour ça que c'est drôle. Arnaud Mimran, le bourgeois, lui, veut jouer avec les lignes rouges, flirter avec les limites. Mais tous trois ont la même maladie, dites-vous, la maladie du jeu, la malédiction du jeu.
Oui, c'est-à-dire qu'il joue avec la vie comme il joue autour d'une table de poker. C'est du poker où on perd des centaines de milliers, voire des millions d'euros dans des parties privées. Hein. C'est pas de la petite bibine. Et en effet, on va toujours chercher chez l'autre ce qu'on n'a pas. Et donc, l'homme bien né, dont le père est dirigeant de l'une des grandes multinationales françaises, est attiré par les lignes rouges, les sueurs froides, le monde du crime. Et puis, les petits gamins de Belleville qui, à force d'escroquerie, vont eux aussi habiter au bout d'un moment dans le 16e ou le 17e arrondissement de Paris. Sont attirés par la respectabilité, la notabilité que l'argent toujours procure. Mais ils vont se retrouver, comment dire, dans un condensé d'époque, puisqu'ils vont rencontrer des décisions gouvernementales et européennes dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Et mondial,
Protocole de Kyoto, pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est comme ça qu'ils vont se retrouver dans une arnaque qui va leur permettre à eux de récupérer des centaines de millions d'euros en quelques mois, et pour tous leurs complices, plusieurs milliards d'euros sur le dos du fisc français.
Ce qui est intéressant, ce qui est amusant, ce qui m'a fait sourire, c'est que vous, l'incorruptible, l'auteur d'enquêtes fouillées sur l'affaire libyenne de Sarkozy, sur l'affaire Cahuzac, on vous sent comme touché, comme empathique, comme si vous aviez de la tendresse pour ces gamins-là. On voit moins de tendresse chez vous pour Sarkozy ou Cahuzac, en général.
En fait... Disons que ce livre, j'ai voulu, contrairement au livre d'avant, où je voulais surtout démontrer à quel point j'avais raison, avec des chapitres qui étaient un peu des gros articles bien velus, là j'ai voulu raconter une histoire et raconter les tragédies intimes, les épaisseurs humaines. Alors bien sûr, il y a une forme de fascination pour cet univers-là, mais qui n'est pas une fascination attirance, qui n'est pas la fascination qu'on peut retrouver dans certains films de gangsters, puisque il n'y a pas de vertu rédemptrice, puisque après l'épiphanie de l'argent dont on a parlé, tout
ça, il y aura des morts.
Et ben, il y a une décadence criminelle inouïe, puisque sur le magot de cette arnaque au quota carbone, le crime français va littéralement muter, offrir un nouveau visage. Et aujourd'hui, on en est à entre 5 et 7 assassinats qui ont été commis en lien direct avec les acteurs, l'argent ou les intrigues du CO2 à Paris, sans la moindre mise en examen judiciaire au moment où on se parle.
D'ailleurs, l'un des trois va être assassiné.
L'un des enfants de Belleville va être assassiné.
Les deux autres sont en prison et comme vous dites, il n'y a pas de rédemption comme chez Scorsese. Alors cette fameuse taxe arnaque à la TVA, à la taxe carbone, vous dites c'est une arnaque vieille comme la TVA elle-même. Si vous deviez expliquer à un ado de 15 ans ce qu'ils ont fait.
Ouais. Non, en fait, pour comprendre, il y a eu le protocole de Kyoto en 97 qui a été un événement mondial puisque pour la première fois, toutes les grandes nations se sont dit on va essayer de réduire nos émissions de gaz à effet de serre qui polluent et détruisent notre notre planète. Et donc il a été décidé, il y a une bataille entre des écoles d'économistes, entre les Européens et les Américains, sur comment on va y parvenir. Il y avait le choix de l'État-providence ou il y avait le choix de la financiarisation du marché, de la bourse. C'est les Américains et l'idéologie américaine, entre guillemets, qui l'a emporté. On va faire une bourse de quota carbone où en fait les entreprises qui sont autorisées à polluer ne peuvent pas dépasser un certain nombre de quotas d'émissions. Si elles le dépassent, elles doivent acheter sur le marché de la bourse carbone les quotas de ceux qui ne les dépassent pas. Et
c'est-à-dire que Kyoto a décidé de laisser le marché s'auto-réguler, laisser les entreprises vendre entre eux. Donc si moi j'ai une entreprise qui pollue moins que la vôtre, je peux vous vendre mais taxes carbone.
Exactement.
Et vous me les achetez.
Et il y a des sociétés intermédiaires, c'est celles de nos amis dont nous parlons, qui vont s'infiltrer sur le marché. Et ce qu'il y a de quasiment beau, chimiquement pur dans cette histoire, c'est que d'un côté, nous avons les quotas, qui est un peu l'illusion de la marchandise, quand même. Et en face, des sociétés fictives, puisque eux ne se piquent pas d'écologie du jour au lendemain. Leurs sociétés sont fictives. Leur activité est fictive. Et le faux va rencontrer le vent, en tout cas le gaz, et ça va provoquer des milliards d'euros qui sont barboté au nez et à la barbe de l'État français, car c'est un fiasco pour l'État français qui, je ne vais pas jusqu'à la thèse de la complicité,
de l'incompétence et de la complaisance
à certains égards.
Vous donnez l'hypothèse de la complicité de l'État français. L'État français, comment c'est possible que des petits escrocs qui vendaient des jeans en arrivent à berner les plus hautes intelligences de l'État, les polytechniciens de Bercy, aussi longtemps, pour quasiment entre 1 et 3 milliards d'euros? Vous dites... Enfin, comment c'est possible d'ailleurs? Comment ils se sont fait avoir comme des...
Non, en fait, c'est... Bon, tout le monde se rappelle de Nicolas Hulot dans ce studio expliquer sa défaite face pour l'écologie. Et moi, je ne sais pas si le libéralisme et l'écologie peuvent marcher main dans la main. En tout cas, ce dont je peux témoigner avec ce livre, c'est que quand cette lutte-là rencontre un capitalisme de casino sans contrôle, avec une arrogance administrative terrible, des erreurs et des incompétences folles qui ont été commises, avec des situations de conflits d'intérêts institutionnels au cœur de la bourse carbone, eh bien, ça ne marche pas. Et on en arrive à une escroquerie vertigineuse, qui est un défi cognitif, qui, je le répète, a une face cachée aujourd'hui. C'est le crime, c'est le sang et c'est la poudre qui parle.
Voilà, c'est à la fois donc effectivement une histoire d'amitié, une histoire criminelle, une histoire politique avec des résonances avec ce qui se passe aujourd'hui et cette question sur est-ce que l'écologie se fond peut être compatible avec l'économie de marché, oui ou non. Il est où l'argent?
C'est une très bonne question. En fait, on a très peu retrouvé la trace de l'argent. On a retrouvé le patrimoine de ceux qu'on a pu arrêter. Beaucoup est parti, évidemment, dans ces boîtes noires de la mondialisation que sont les paradis fiscaux et dans un certain nombre de pays où il a bien fallu le blanchir.
D'argent et de sang, le roman vrai de la mafia du CO2, c'est un thriller haletant différent, du Harfi différent. C'est au Seuil. Merci et belle journée.
Un autre Harfi est possible. À tout à l'heure, Léa.